prendre un chant ou l'écouter. C'est un chant que nous prendrons après dans le temps de louange. C'est le 903.
Merci, bienvenue à tous en ce dimanche matin. Avez-vous déjà rempli votre déclaration d'impôt? Il vous reste encore 25 jours. Quelle entrée en matière pour un dimanche matin. Vous pensiez venir ici rechercher du réconfort et une respiration pour votre âme, oublier les contraintes de la vie, ne pas penser aux soucis qui encombrent votre vie. Et là, voilà que je vous rappelle à vos obligations, quelle galère. Mais je vais vous rassurer, je ne vais pas vous laisser sans espoir. Vous allez voir que la solution est simple. J'ai trouvé une petite BD dans le journal Tournesol, un journal pour les enfants et les enfants de Dieu, dans la série des « C'est Dieu qui l'a dit ». Alors le papa se torture à savoir comment il va payer ses impôts. Et finalement, la solution vient de l'enfant qui simplement a retenu une histoire qu'il a dû apprendre à l'école du dimanche, où il suffit simplement de reprendre ce qui était dit dans Matthieu 17, versets 24 à 27. Il est écrit « Va au lac, prends le premier poisson que tu pêches, ouvre sa bouche et tu trouveras de l'argent. » Et bien sûr, la foi d'un enfant étant plus forte que celle d'un adulte, l'adulte doute et c'est un beau conte de fées. Bon, en l'occurrence, il profite d'aller pêcher. Je vous rappelle que la pêche vient d'ouvrir à Genève, donc peut-être qu'avant le 25, avant le 31 mars, vous aurez peut-être la chance de trouver de l'argent dans un poisson. Épatant, non ? Vous voilà soulagé ? Vous voilà encouragé ? Non ? C'est effectivement un peu facile, un peu enfantin. Qu'est-ce qu'on en tire de tout cela? Peut-être que vous pensez que les miracles n'existent pas et qu'ils sont que pour les autres. Je vais vous raconter une histoire qui me touche particulièrement. Quand j'étais petit, on a eu en famille un accident de voiture et du coup la voiture était totalement irréparable. Et c'était effectivement des soucis financiers. Avec quatre enfants, c'était pas facile de devoir racheter une voiture. Eh bien, mes parents ont eu la chance de découvrir dans leur boîte aux lettres une enveloppe qui était marquée « De la part du Seigneur » dans laquelle il y avait 2000 francs. Ce qui a bien aidé pour racheter une nouvelle voiture. Donc les miracles existent. Il faut avoir la foi d'un petit enfant, croire ce qui est écrit dans la Bible, même si c'est facile à dire. Mais quand ça se passe, on a de quoi louer le Seigneur. Et j'aime bien un verset dans Daniel. C'est le roi Darius qui, après avoir vu le miracle de Daniel sorti de la fosse au lion, qui écrit cela. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, non seulement puissant, mais tout-puissant. Il peut tout. Louons ce Dieu tout-puissant.
Je vous propose de vous lever et effectivement, louons ce Dieu tout-puissant, Dieu de lumière. C'est ce que j'avais envie de dire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain. Dieu est le même ici, à Madagascar, en Guyane française pour Rachel et Marie. Il est le même pour ceux qui sont ici, ailleurs, ceux qui étaient avant nous et ceux qui seront après nous. Dieu est grand. Et je crois que ça nous dépasse. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que Dieu nous a aimés. Et j'avais envie de vous lire, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. On n'a pas reçu un bouquet de fleurs, on n'a pas reçu un petit câlin, on n'a pas reçu... voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, ce n'est pas d'abord nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Voilà le commandement de Dieu. Et Dieu nous a donné Jésus. Et j'avais envie de célébrer Jésus ce matin. Célébrer Jésus. Il est bientôt arrivé dans notre calendrier. Il y aura bientôt les rameaux. Il va bientôt arriver à Jérusalem, être accueilli. Il y aura le jugement, il y aura la croix, il y aura la résurrection. Nous pouvons nous rappeler de ce Jésus. Et je vous propose un chant qui dit « Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, je vis pour lui. » Alors c'est le 418, il n'est peut-être pas très connu, alors on se laisse aller, il est facile. Ça va vous rappeler des souvenirs de jeunesse. Le rythme est assez sympa. L'espoir des nations.
Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui
Seigneur, ce chant est tellement plein de ce que tu es pour chacun de nous, tellement de Jésus, oui, tu es l'espoir des nations, le soutien de ceux qui pleurent. Tu es l'espoir pour cette terre et ce matin, nous voulons te remercier pour ta venue, pour ton exemple, mais aussi pour le don de ta personne surtout. Parce que tu as pris sur toi nos péchés et tu nous as libérés. Seigneur, nous voulons faire monter des prières vers toi, des prières de reconnaissance pour ta personne. Et je vous invite, peut-être si on peut laisser le chant affiché, je vous invite, si ce chant peut nourrir nos prières, que chacun puisse exprimer ce qu'il a envie de dire au Seigneur. Amen.
Merci parce que la lumière sur terre, Seigneur, c'est difficile, mais sans toi, ça serait le chaos total. Alors merci pour ta présence. Merci parce que tu es la lumière du monde.
Amen.
Merci parce que tu es un Dieu proche. Tu es le bon berger.
Parce qu'à la croix, tu as dit tout est accompli. Merci parce que dans ce tout accompli, nous pouvons vraiment accueillir dans cette grâce, dans ce cadeau que tu nous offres de pardon, de vie, de guérison, de libération. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Amen.
Oui, Seigneur, en moi s'est écrit de lumière par ton éclat le monde doit. Mais me semble que le monde. C'est vrai que la lumière, mais le monde est malade et il ne voit rien. Alors Seigneur, par ta toute-puissance, que tu guérisses les nations, que tu guérisses encore beaucoup de monde, que vraiment, qu'ils puissent voir.
Amen. Amen. Comme l'a dit Dominique, merci parce que tu es ce Dieu proche. Tu voyages avec nous, tu désires vraiment cette relation proche avec nous. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen.
Tu nous as consolés.
On a commencé par chanter que oui, il est le même, ici, aujourd'hui, ailleurs, demain, hier, il est le même. Alors on va lui demander de régner dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. À vous rasseoir.
J'aimerais juste prier pour les enfants qui vont rejoindre leur groupe. Dieu est Père, veuille bénir tous ces enfants. Tu vois qu'en tant qu'Église, nous avons une grande responsabilité envers les enfants que tu nous confies. Veuille les bénir, veuille bénir aussi leurs moniteurs. Que tu leur accordes sagesse et intelligence. Par Jésus-Christ, amen. Alors les enfants, vous pouvez rejoindre vos groupes. Et puis j'invite Rémi Chance à me rejoindre pour la prédication.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme il a été dit, je m'appelle Rémi Chance. Je suis le papa de quelqu'un que vous connaissez, de Nicky, le futur beau-père de Lydie. Voilà, ça. Ah, ça va tout de suite, ça va tout de suite mieux. Hein. D'où vient-il celui-là? Mon épouse Daisy est là, si tu veux présenter. Voilà. Nicky, c'est notre troisième enfant. Nous avons donc d'abord une fille qui est mariée et qui a 5 enfants, qui habitent à Orbe. Et puis un garçon avec son épouse, ils habitent près d'Yverdon. Ils ont 2 enfants. Et voilà, le troisième qui se marie. On est très heureux de cela. Donc là, nous avons travaillé pendant plusieurs années à Dijon, avec la mission AMF, Action Missionnaire pour la Francophonie, cette mission avec laquelle va partir Aurélie, donc on en dira plus tout à l'heure, quelques mots. Et donc, samedi passé, enfin le week-end passé, nous sommes revenus, nous avons déménagé après 9 ans d'être restés dans la région de Dijon, donc en Côte d'Or. Nous sommes revenus pour habiter près d'Yverdon. À l'origine, je suis agriculteur et j'ai une ferme et du terrain tout près d'Yverdon dans un petit village à 5 kilomètres. Et avec mon épouse et certaines fois avec nos enfants, nous avons pu partir en mission. Nous sommes partis au Tchad la première fois en 1979. Voilà, je suis devenu vraiment français. 79, n'est-ce pas? Et on est parti travailler, on a travaillé dans un orphelinat au sud du pays. On était tout jeunes mariés. Première année de mariage. Et on a fait presque 3 ans dans cet orphelinat. Et ensuite, on est reparti dans différents pays, entre autres au Centrafrique et à Madagascar, et puis encore une fois au Tchad avec nos enfants qui étaient plus grands. Et ce matin, j'aimerais vous parler, le sujet, ça serait l'appel du Seigneur et comment répondre à l'appel du Seigneur. Bon, il faut que je regarde, il y a une montre quelque part ici? Non? Ah ah! Ça c'est grave, ça c'est très grave, surtout pour un missionnaire. Le laisser parler et sans mettre de montre. Mais on m'a quand même donné une limite, donc vous ferez des petits signes quand j'aurai vraiment trop dépassé la limite. Ça, c'est quand même une particularité quand on est en mission. Vous savez, vous connaissez cette phrase que les gens disent en Afrique. Vous, vous avez la montre et nous, on a le temps. Voilà, ça résume bien. À Madagascar, tout autant, on parle de mour-amour, hein, c'est tranquille. Donc voilà. Donc on va parler un peu de l'appel. Comment répondre à l'appel de Dieu, comment entrer dans le service de Dieu. Alors c'est sûr que je vais effleurer ce sujet parce que c'est un grand sujet et puis c'est différent pour chacun de nous. Souvent on me demande, mais comment toi Rémi et ton épouse Daisy, vous avez reçu l'appel pour partir en mission? Vous voyez, j'étais dans une salle et puis tout d'un coup, dans le fond, sur le mur, le doigt de Dieu a écrit « Tu vas partir ». Est-ce que t'es comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est assez rare hein, que le doigt de Dieu se mette à écrire comme ça sur un mur. Nous étions prêts à servir Dieu. On a fait une école biblique pendant 1 an en France et puis nous étions disponibles pour servir Dieu. Et on était dans une rencontre aussi en France, et puis des missionnaires ont dit on aurait besoin d'un couple qui vienne nous aider pour s'occuper des enfants. Voilà, c'était au Tchad. Mais nous, on n'avait jamais été au Tchad, donc on ne sait rien du tout. Et on a rencontré ces gens, et puis quelques mois après, nous voilà au Tchad. Voilà, ça c'était la réponse à notre appel. Mais moi, j'aime bien dire que j'ai eu à cœur vraiment le travail missionnaire et j'ai eu un appel pour l'Afrique alors que j'étais en Afrique. Donc c'est pas avant, mais c'était plutôt pendant. Et là, on était plutôt disponible à faire ce que Dieu nous demandait de faire. Alors il y a beaucoup d'autres manières de recevoir un appel de Dieu, mais ce qui compte, c'est notre engagement avec Dieu, notre disponibilité à faire ce qu'il nous demande, qu'on laisse travailler Dieu notre caractère et puis qu'on soit disposé à faire ce qu'il nous demande. Avec l'appel, il y a un autre outil qui est très important, c'est la pioche. Parce que si on n'est pas prêt à utiliser et à travailler et avoir la pioche et à être concret, alors c'est vraiment plus difficile. Oui, on a travaillé dans un orphelinat. C'était une très bonne expérience, mais moi, je n'avais pas un appel à travailler parmi les enfants. Mais le cadre dans lequel on était vraiment très formateur, et puis ça nous a permis de connaître le milieu et d'être dans un cadre qui nous a servi pour apprendre à connaître une culture qui n'est pas la nôtre, ce qui est quand même une grande difficulté quand on va dans un pays. On va comme des apprentis, c'est pour ça que on va pas comme des gens qui savent les choses, mais on a tellement de choses à apprendre qu'il faut avoir cette attitude de plutôt apprendre plutôt que de vouloir apprendre aux autres. Hein, on aurait tendance à à dire, mais nous les Suisses, on va vous expliquer comment il faut faire. Nous, on sait, parce qu'il y en a un point comme nous. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment l'attitude anti-missionnaire, c'est d'arriver dans un endroit et puis de vouloir que les gens soient comme nous. En réalité, c'est à nous de découvrir leur manière de vivre, de leur culture et tout cela. Alors, on va prendre quelques exemples dans la Bible. On va commencer par l'apôtre Paul. Et puis, on va regarder comment Dieu l'a appelé, donc dans Actes, au chapitre 9 et au verset 26. Lui, c'était rapide. Lui, c'était presque comme ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu a écrit sur le mur. C'était très, voilà, très fort. Et par la suite, donc au verset 26, je crois que vous avez tous entendu parler de la conversion de Paul. Il n'est pas tombé du cheval, comme beaucoup le disent, mais il est tombé. Et souvent, on voit les images, on voit l'apôtre Paul qui tombe d'un cheval, mais dans la Bible, c'est pas marqué qu'il était sur un cheval. On peut le supposer, mais c'est pas du tout marqué. Et ensuite, au verset 26, donc de acte 9, il est dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, donc avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul, tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement le nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Donc, bon, l'apôtre Paul, c'était un changement énorme. Il va à Damas, et puis sur le chemin, Jésus lui apparaît. Il allait pour persécuter l'Église, et puis il en ressort à prêcher Christ. C'est sûr qu'on peut comprendre que les chrétiens n'étaient pas très chauds à l'écouter, parce que, évidemment, ils avaient beaucoup de crainte et ils savaient qu'il était le grand persécuteur. Mais Barnabas l'accompagne et puis se fait l'avocat pour Saul. Alors, Saul, il avait une bonne formation, dans le côté religieux juif, des pharisiens. Il avait une bonne connaissance des langues. Et puis, il était un homme vraiment enthousiaste comme il était enthousiaste pour persécuter, il était enthousiaste vraiment pour servir Dieu. Et puis, ben voilà, là, le texte qu'on a lu, il a dit, mais comment il a fallu qu'il entre aussi dans l'Église, dans le corps, et qu'il soit reconnu. Et c'est Barnabas qui a aidé pour cela. Donc, son appel à lui, c'est une vision surnaturelle qu'il a reçue de Dieu. Et puis, il y a eu une confirmation de cet appel au moyen d'une parole prophétique par Ananias. Et puis, lui-même s'est engagé à obéir à l'appel de Dieu. Et puis, il a été vraiment transformé complètement. Et le Jésus qui persécutait, les chrétiens qui persécutaient, très rapidement, il les a défendus et il a prêché le Christ. Donc, lui, son appel a vraiment été un appel merveilleux. Et puis, les fruits qu'il a portés, ben, jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous, en Europe, on est aussi au bénéfice de cet appel. Comment Dieu l'a choisi et comment Dieu l'a établi à être apôtre, c'est un bel exemple pour nous. Donc, on voit ce texte qu'on a vu dans Actes 9, 26, et puis le début de son service, si on veut, d'envoi par l'Église, c'est le texte qui est bien connu d'Actes 13, versets 1 à 3. Moi, c'est comme ça que j'aurais bien aimé être envoyé chaque fois que je suis parti, mais ça n'a pas été souvent comme ça. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit lui dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, ça pour moi, c'est le top. Le top du top pour un envoi. On est en prière dans l'église, en plus on jeûne. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Je ne connais pas beaucoup de noms ici, on va dire Johan et Roger pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tout le monde entend, dit, ah oui, c'est bien. Après avoir prié et jeûné, on prie pour eux et ils partent. Ça, c'est l'envoi merveilleux. Parce que l'Église, c'est pas eux-mêmes, c'est pas Roger et Johan qui ont entendu l'appel, c'est toute l'Église en entier. Donc, l'Église est derrière. Et puis, on prie pour eux. Et puis, quand ils partent, on n'a pas le temps de lire, mais après, on voit dans la suite, ils partent et ils portent du fruit. Et ils reviennent à Antioche. Et il raconte ce qui s'est passé. Et ça, c'est merveilleux. Aurélie part à Madagascar, et puis quand elle revient, parce qu'elle est envoyée par l'Église, elle peut raconter. En plus, maintenant, ce qui existe, il y a des mails. Donc elle peut envoyer des nouvelles entre-temps, et puis l'Église continue de prier. Ça, c'est l'idéal, comme on voit, parce que, voilà, c'est en réalité l'Église qui part avec la personne, parce qu'elle est envoyée. C'est pas bon voyage. Moi, la première fois qu'on est parti, on n'avait pas fait les choses peut-être correctement. On revenait de l'école biblique, on est revenu de notre église, on leur a dit qu'on allait partir au Tchad, et on nous a souhaité bon voyage. Et puis, si je caricature un peu, après, 3 ans après, on est revenu, bienvenue. Mais entre deux, assez silence radio. Donc ça, c'est pas la bonne manière, hein, mais il y a la manière de partir. Et puis, il y a la manière aussi de que l'Église soit prête, que l'Assemblée soit prête à dire « Oui, je suis d'accord que telle personne parte, et puis je m'y engage. » C'est comme si le bras, hein, c'est le missionnaire qui va au loin, mais il faut qu'il soit rattaché au corps. Il ne peut pas être coupé comme ça, parce qu'il ne va pas vivre du tout, même pas longtemps. Ça fait partie de cet ensemble. Parce que quand quelqu'un part pour répondre à un appel de Dieu, que ça soit à Genève ou que ça soit à Madagascar, peu importe, mais c'est l'Église, normalement, qui devrait envoyer et soutenir et accompagner. Donc, voilà, ça a été le cas pour l'apôtre Paul, et c'était vraiment une bénédiction. Pour Barnabas, point 2, acte 11, versets 19 à 26. Barnabas, c'est un peu différent, parce que moi j'aime beaucoup Barnabas, je me retrouve un peu dans lui. C'était un homme dont son nom dit que c'était un fils d'exhortation, c'est quelqu'un qui encourage. C'est lui qui a été auprès de Paul, de Saul à l'époque, mais qui est devenu Paul, pour l'introduire dans l'église. C'est lui qui, quand il y avait une offrande à apporter à Jérusalem, qui passait, c'était l'homme de confiance. S'il y avait quelque chose, s'il y avait un petit conflit ou quelque chose qu'on comprenait pas, on envoyait Barnabas, parce que il arrivait bien à expliquer, et puis c'était quelqu'un d'éprouvé. Il était éprouvé, il était rempli de l'Esprit Saint et de foi. Et voilà, lui, c'était, on peut dire, c'était un second, mais avec quand même beaucoup d'importance. Et moi, j'aime cet homme, parce que moi, je me sens aussi plus un second qu'un leader, et peut-être c'est pour ça que je me retrouve. Quand j'étais au siège de la mission, le responsable, il voulait que je devienne le responsable. Et après prière, et puis en regardant aussi mon cœur, je me suis dit, non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur le terrain, mais pas d'être le numéro, mais d'être plutôt derrière. Donc, acte 11, 19, 26, on va lire un bout. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Donc, il est venu voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez, en assez grand nombre, assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Vous voyez, c'est cet homme de lien, entre l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Il faut savoir qu'au début de l'église, Jésus avait dit, dans les derniers versets des évangiles, « Allez par tout le monde prêcher la parole faite de toutes les nations des disciples. » Mais les disciples avaient compris « faite de toutes les nations parmi les Juifs, faite des disciples. » Et pour eux, il y avait une impossibilité de prêcher à des non-Juifs. Et si on regarde dans les Actes, on se rend compte que c'est la persécution de l'Église de Jérusalem qui a fait que les chrétiens se sont répandus en Judée, en Samarie et jusqu'à Antioche et au-delà par la suite. C'est à cause de la persécution. Et même quand ils étaient persécutés, ils cherchaient surtout les Juifs. Ils n'avaient pas encore compris que tous les hommes pouvaient être sauvés. Pourtant, l'ordre de Jésus était là. Mais si on regarde l'histoire de la mission, on prend un exemple, par exemple, de William Carey qui a voulu partir en Inde. Et quand il voulait partir, les gens lui ont dit, entre autres, « Mais est-ce que les Indiens, ils ont une âme ?» Et c'est arrivé la même chose en Afrique. Est-ce que c'est des humains, quoi, quelque part? Vous voyez, dans, quelles sont les limites et les barrières qu'on peut rencontrer, qu'on a pu rencontrer aujourd'hui et à ce même niveau, heureusement. Je crois que les gens ne s'inquiètent pas pour Madagascar. Est-ce que tu vas chez des humains ou... Je ne sais pas. Je crois que là, ce n'est plus le problème. Voilà. Donc, Barnabas était un homme, vous voyez, un autre appel, un autre service, mais vraiment important, parce que, il y avait besoin que cet homme, il avait la perception spirituelle pour savoir qu'il y avait une chose qui était en train de se passer hors Jérusalem et qu'il y avait des nouvelles choses qui se vivaient et puis il fallait qu'il explique aux autres. Et bon, on ne sait pas exactement quand il a été appelé, mais il se soumet aux décisions de l'Église et c'est un homme qui est obéissant. C'est un homme, on l'envoie, alors il répond. Est-ce qu'il était pleinement d'accord? Est-ce qu'il était prêt? Est-ce que son emploi du temps, est-ce qu'il n'avait pas un planning? Je ne sais pas. Non, il est prêt, il part et il va là où on l'envoie. Là, il faut aussi des gens. Comme ça. C'est-à-dire, c'est des seconds. C'est pas eux qui ont l'initiative, mais c'est eux qui sont des gens qui font le travail, qui sont la courroie de transmission. Nous parlons d'une troisième personne. C'est de Timothée. Acte 16, 1 à 3. L'apôtre Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et voilà, donc la suite, c'est la suite de l'histoire. Donc, bon, de Timothée, on rendait de lui un bon témoignage. C'était un homme éprouvé. C'était un homme fiable. Sa mère était une croyante connue. Il reçoit aussi, il a reçu des dons du Saint-Esprit. On lui a imposé les mains. On trouve ce texte dans 2 Timothée 1:6. On va juste regarder. 2 Timothée 1:6. C'est pourquoi je t'exhorte, donc c'est à Timothée qu'il est parlé, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul l'a pris avec lui et en a fait, on peut dire, il était son fils, hein, il était son modèle, et puis Timothée devait le suivre. Il se soumet aux décisions de Paul, et c'est quelqu'un qui va être vraiment, on pourrait dire, un disciple de Paul. Et puis donc, il a reçu l'imposition des mains des anciens dans 1 Timothée 4, 14, puis c'est un précieux assistant de Paul. Il est un homme de confiance, un jeune qui le suit, et voilà. Et encore une autre manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est de suivre un disciple, de faire comme lui. Timothée n'a pas dit « moi je suis jeune, je sais tout ». Ce n'était pas un « je sais toutiste », hein, mais il était prêt à suivre l'apôtre Paul. Quand on a un appel de Dieu, c'est important qu'il y ait aussi un appel dans nos cœurs d'obéissance et de soumission. Moi qui suis quand même déjà depuis longtemps dans les églises, on entend souvent des gens qui ont des appels de Dieu, et puis on dirait que parce qu'ils ont entendu un appel de Dieu, il n'y a plus rien qui compte autour d'eux. Ils partent, ils sont prêts à partir. Le Seigneur m'a dit, alors quand on a dit cette phrase, le Seigneur m'a dit, en tout cas moi quand j'étais responsable d'une assemblée, je n'avais plus rien d'autre à dire. Parce que si tu dis quelque chose contre, peut-être que tu vas dire quelque chose contre le Seigneur, puisque le Seigneur a supposé dire. Ça, c'est moi qui rajoute supposé. Hein. Mais quand on dit le Seigneur a dit, voilà, ça ferme complètement tout dialogue et toute réflexion en assemblée pour se dire, mais est-ce que c'est le Seigneur qui a dit? Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit tout de suite? Est-ce qu'il n'y a pas un temps? Est-ce que, voilà, des fois, il y a beaucoup de choses qui doivent être vues. Et puis, dans les circonstances, ensuite, comment ensuite on doit partir? C'est pour ça qu'il y a déjà, entre autres, c'est pour ça qu'il y a des agences missionnaires qui préparent les gens, qui leur disent, mais si tu pars, tu ne peux pas simplement partir. En tout cas, de notre temps, on ne peut plus partir sans rien préparer. Comme Aurélie, elle est en train de faire son visa, elle ne peut pas dire, le Seigneur m'a dit. Bon, là, il faudrait beaucoup de miracles. Je sais que ça existait. J'ai entendu un prédicateur, le Seigneur lui a dit d'aller tel endroit. Et bon, les visas se sont débloqués. Mais en général, moi, nous, on est partis aussi à Madagascar. On a dû faire des visas. Et puis, il fallait remplir les conditions. Malgré que, même si le Seigneur nous avait dit, précisément, ça n'empêche pas que les lois des hommes, il faut aussi les mettre en pratique. Voilà, donc on va parler encore de Apollos, acte 18. Oui, vous n'avez pas besoin de beaucoup tourner dans la Bible, hein, c'est en suivant. Acte 18, versets 24 à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. C'est un orateur qui est compétent, c'est Apollos, il est rempli de zèle, il est courageux, il est humble, il accepte qu'on l'enseigne aussi. Apollos voulait se rendre, et puis l'Église le soutient et l'encourage. Apollos, c'est un homme qui est prêt à travailler, mais qui est aussi prêt à se soumettre et à écouter l'avis des autres. Il attend la confirmation des autres, et puis dans son service est aussi fructueux. On va terminer par beaucoup de croyants, c'est-à-dire plusieurs personnes qui répondent à l'appel de Dieu. Ça, c'est un petit peu avant dans les actes, acte 8. Ça va, la petite clochette n'a pas encore sonné pour que je m'arrête. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là, donc acte 8, verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là, c'est vous et moi, c'est-à-dire c'est tout le peuple qui a été dispersé à cause de la persécution. Et ils n'ont pas pu rester à Jérusalem et ils sont partis. Hein. Il est dit, ils sont partis dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et puis, si on lit la suite, ils ont commencé à parler. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas pleuré parce qu'ils ont été chassés de leur chapelle de Merin. Pourtant, ils auraient peut-être pu se réunir dans un autre lieu, dire « Seigneur, ouvre les portes pour qu'on puisse revenir à Merin, c'est notre lieu !» Non, la Bible nous dit qu'ils ont été en Judée, en Samarie, et ils ont été des témoins là où Dieu les a placés. Et on voit que la persécution de l'époque de la Bible, mais comme aujourd'hui, est un moyen que nous n'aimerions pas subir, mais qui est réel pour l'expansion de l'Église, que l'expansion du corps de Christ. Beaucoup de persécutions dans le monde entier aujourd'hui ravivent la flamme de l'Évangile et permet que l'Évangile pénètre encore plus profondément, parce que dans la persécution, on s'accroche à Dieu. Et puis, on demande que sa gloire et sa puissance encore se manifestent. Donc, ils avaient du courage, ces gens-là. Alors, on peut reprendre, mais je crois qu'on l'a déjà lu, le texte de Actes 11, 19, 21. C'est tous ces croyants qui ont dû fuir Jérusalem et qui témoignent. Et qui voient la main de Dieu et qui voient l'Évangile qui pénètre dans les nations qui sont non-juives. C'est cette persécution qui a permis. Alors, est-ce qu'il nous faut un peu de persécution pour qu'on bouge? Ben, je crains que oui. Parce que c'est souvent quand même dans notre zone de confort, on est bien, mais des fois, il faudrait qu'on puisse sortir de cette zone pour avoir des défis devant nous. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin, mais il faut qu'on aille vers l'autre. Et il y a un livre, là, c'est juste, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, un nouveau livre, Juste un pas vers l'autre, c'est de Heibel. Et c'est intéressant parce qu'il explique justement toutes les fois où nous aurions l'occasion de prêcher l'Évangile, mais il faudrait juste qu'on fasse un pas vers l'autre. Juste le premier pas pour arriver vers l'autre. D'après le livre des Actes des Apôtres, il semble que l'appel personnel pour un service spécifique joue un rôle de second plan. C'est vrai, par exemple, pour Jésus aussi, envers les disciples, c'était un appel autoritaire fondé sur une relation avec lui. « Suis-moi ». Il n'a pas donné tout le programme de ce qu'ils allaient faire. Et par la suite, conduisait à un établissement spécifique pour un ministère. Paul suit aussi ce modèle. Lorsqu'il trouve quelqu'un qui a un engagement radical et une foi éprouvée, il l'appelle au service. Et Timothée, par exemple, l'a suivi en tant que jeune dans la foi, et puis Dieu l'a conduit dans un ministère, dans un service, qui a changé aussi au fil du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt se dire « moi je suis un chrétien, mais moi je veux répondre à l'appel que Dieu a pour ma vie », plutôt que de se dire « ah moi j'aimerais être un Charles Studd ou bien un Lorraine Cunningham ou je ne sais pas quel est le modèle, ou je ne connais pas vos modèles, mais Bunke ou je ne sais pas lequel », mais se dire plutôt « mais qu'est-ce que je peux faire pour répondre? Quel est l'appel de Dieu pour ma vie spécifique? Qu'est-ce que Dieu me demande ?» Est-ce que je suis prêt à faire simplement ce qu'il me demande? C'est pour ça que je vous disais, sous forme de boutade tout à l'heure, il y a l'appel, puis il y a aussi la pioche. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à faire ce que notre main trouve. Si on veut répondre à l'appel de Dieu, en tout cas c'est ce que nous cherchons aussi, nous, dans notre mission, c'est de savoir comment une personne vit dans son église locale, comment elle répond à l'appel de Dieu au sein de l'église là où elle est. Parce que ce n'est pas sous les cocotiers que le service va venir dans le cœur, que tout d'un coup on va être transformé. Non, c'est ce qu'on a commencé ici. Si on est bien engagé avec Dieu dans l'évangélisation, dans le service, alors on peut l'être ailleurs. Mais si on ne l'est pas ici, commençons vraiment à répondre à l'appel de Dieu là où Dieu nous a placés. On va prier. Seigneur, merci pour l'appel que tu as pour chacun de nous. Seigneur, il est différent. Tu nous appelles tous à être des témoins. Tu nous appelles tous à être tes disciples. Et je te remercie parce que tu ne nous rejettes pas, tu nous accueilles les uns les autres. Et tu veux pas qu'on dise, mais pour moi, il n'y a rien. Non, parce que pour chacun d'entre nous, tu as un appel précis. Parce que tu nous as déjà appelés à te suivre et appelés à t'aimer et à te servir et à servir notre prochain. Je te prie vraiment que ton esprit nous touche au plus profond de nos cœurs et que nous puissions vraiment être ce que tu veux que nous soyons, simplement, fidèlement, humblement, au nom de Jésus. Amen.
On va passer à un temps de Sainte-Cène, un autre appel du Seigneur à se remémorer ce qu'il a fait pour nous. Et j'invite le groupe Mission à me rejoindre pour la distribution.
L'appel et la pioche. Le premier appel, enfin tous ces appels peuvent que suivre ce premier appel en Jésus-Christ. Jean, chapitre 3, verset 16, ce verset bien connu. « Car Dieu a tellement aimé tous les gens qui sont ici assis à Mérin, dans cette église, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que vous tous, nous tous et d'autres, croient en lui, ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce premier appel auquel nous avons répondu que nous allons maintenant célébrer quelque part en partageant ce pain et ce vin. Nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous, nous rappelons ce que Dieu a fait pour tous ceux qui nous entourent jusqu'à Madagascar et ailleurs. Nous rappelons qu'il est le Seigneur. Et c'est parce qu'il est Seigneur qu'il est le Sauveur de tous les hommes et les femmes et les enfants, etc., dans notre monde. Dans la nuit où fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le distribua à ses disciples et leur dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, ce corps qui est donné pour vous. » De même, après le souper, il prit la coupe, il rendit grâce à son Père, il la donna à ses disciples, dit « Partagez-la entre vous, ceci est mon sang, ce sang de la nouvelle alliance qui est pour tous, pour chacun. Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. »
Prions. Dieu Père, merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cet amour qu'il a eu envers nous, qu'il a toujours envers nous et qu'il aura éternellement. Merci aussi pour cet espoir que tu nous laisses, qu'un jour Jésus viendra nous chercher et nous serons près de toi. Béni sois-tu. Amen.
Voilà, que tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur prennent le pain et le vin et partagent ce repas dans cette communion qu'on a entre nous et avec lui.
encore prier. Dieu Père.
Oui, Darius le Mède avait dit que tu étais un Dieu qui délivre et qui sauve. Et cela a été annoncé bien avant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est arrivé. Et tu nous as montré que par Jésus, tu nous sauvais. Nous sommes reconnaissants d'avoir encore cette liberté de pouvoir prendre cette scène, ce repas, chaque dimanche. Béni sois-tu. Amen. Nous allons passer un temps d'offrande et j'invite le groupe Louange à me rejoindre. Nous allons prier pour cette offrande. Dieu et Père, nous te remettons cette offrande entre tes mains, te demander d'accorder la sagesse à ceux qui distribueront, répartiront cet argent, que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse, et que cela profite à ton royaume. Par Jésus-Christ, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Puis, comme vous l'avez peut-être lu sur le mémo, c'est un culte d'envoi. Toujours étrange de parler de culte d'envoi. La culte, l'envoi. Culte d'envoi pour Aurélie. Alors, j'invite Aurélie et puis quelqu'un du groupe mission que je regarde. Je crois qu'aussi, Erissa, tu voulais venir. Peut-être d'autres personnes pour prier pour Aurélie, qui va aussi un peu présenter rapidement.
David, papa.
Voilà.
C'est la maman, mon papa.
Alors, oui. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais d'ici 2 semaines, si tout va bien, je vais partir à Madagascar pour 8 mois. Je dis si tout va bien parce que je n'ai pas encore mon visa, mais voilà, ça va venir. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis de très nombreuses années. Et j'ai concrétisé ce projet il y a un an et demi à peu près. J'ai commencé à le préparer, à rencontrer entre autres l'association avec laquelle je vais partir. Et donc je vais partir avec Eris Upodvika et son fils le 22 mars pour environ 3 semaines où je vais travailler dans son association où c'est une école. Et ensuite, quand Erisou rentrera, je vais rejoindre l'association AEF pour les 7 mois suivants. Et donc, c'est un centre qui fait de l'accueil d'enfants. Enfin, vous aurez une vidéo de présentation tout à l'heure. Donc, moi, je vais faire de l'animation auprès d'enfants d'enfants scolarisés, donc des âges assez variés. Donc, voilà.
Alors oui, nous voulons entourer Aurélie. Nous voulons ne pas l'oublier. Parce que quand on en voit, on est un petit peu, et que ça a très bien été dit ce matin, on est derrière, on est avec. Hein. Elle est la main qui va servir, mais nous, nous sommes le corps, le cœur qui prions pour elle. Et c'est ce que nous voulons aussi faire maintenant. Prier pour Aurélie, demander à Seigneur de bénir toute son équipe, toute l'équipe là-bas, et que nous aussi, nous sachions prendre nos responsabilités derrière elle et ne pas l'oublier dans nos pensées et nos prières. Personnellement et en communauté. Bon, je vais commencer. C'est une sacrée responsabilité, Seigneur, que d'envoyer quelqu'un. Ce n'est pas rien. Pour Aurélie, c'est son premier départ, quelque part. Et tu veux la combler, la bénir, l'accompagner, la remplir de ton amour parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et nous croyons que cet amour dont tu vas la remplir, et que tu l'as déjà rempli d'ailleurs, va l'accompagner dans tous ses gestes, dans cette main qu'elle sera pour nous là-bas, à Madagascar, cette île que nous aimons. Alors nous bénissons Aurélie en ton nom. Et nous nous engageons à être derrière elle dans cette mission. Amen.
Oui, Seigneur, nous te remercions pour Aurélie. Merci ce qu'elle est pour toi, mais ce qu'elle est pour nous aussi. Te demandons de l'accompagner. C'est merveilleux de savoir qu'elle ne part pas seule. Tu es avec elle et que tu seras avec elle chaque jour de sa vie. Nous voulons l'accompagner de nos prières et te dire que Seigneur, merci de prendre soin d'elle. Amen.
Amen. Amen. Notre Père Céleste, c'est parce que tu aimes que tu envoies. Et en envoyant Aurélie, nous te prions de la remplir de ton amour par ton esprit, afin qu'elle puisse aimer en ton nom. Nous invoquons ta protection sur elle. Béni sois-tu de ce que tu l'accompagnes, tu continues à la qualifier, tu l'as préparée, et nous te la confions au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, c'est toi qui es notre grand frère. C'est toi qui es celui qui nous guide chaque seconde de notre vie. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans la vie d'Aurélie depuis son enfance quand elle a eu cette idée de partir pour être avec les enfants. Seigneur, merci parce que c'est un privilège de savoir qu'elle a répondu, elle s'est préparée et tout est entre tes mains. Seigneur, nous te confions tout ce qui est encore démarches administratives, tout ce qui concerne aussi au niveau émotionnel pour elle, de se séparer de sa famille, de ses amis, de son église. Jésus, c'est toi qui peux faire tout. C'est par ton Saint-Esprit qu'Aurélie saura auprès de qui elle va se tourner, pourquoi elle sera loin dans mon beau pays à Madagascar. Seigneur, je veux te demander, toi qui l'as appelé, de l'équiper, d'avoir la bonne pioche pour chaque moment à Madagascar. Et merci parce que nous, même si je pars 3 semaines avec elle, après je vais être loin aussi. Mais merci parce que, à cause de ta présence dans la vie d'Aurélie, à cause de la possibilité de pouvoir te la confier, nous sommes dans la paix en tant qu'Église. Parce qu'elle est sous ton regard, elle est sous tes ailes, sous ta protection. Et je veux remettre spécialement Denis et Evelyne qui vont être avec elle et toutes les autres personnes. Merci Seigneur d'apporter ta paix et ton amour qui ne partira pas, qui restera ancré dans la vie d'Aurélie et qu'elle sera une source de joie pour nous Amérins chaque fois qu'elle nous partagera ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a pu apprendre pour que nous aussi on puisse en bénéficier. En ton nom Jésus. Amen.
Seigneur, de génération en génération, tu es le Dieu fidèle pour que de siècle en siècle, ton évangile soit transmis, pour que cette flamme, soit annoncée. Et Seigneur, dans ma courte vie, je me souviens étant petit des départs de plusieurs missionnaires dans notre Église, les frères Heiniger et tous les autres, après des amis, et tous tu les as bénis, tous tu les as gardés de leur départ à leur arrivée. Et oui, Seigneur, aujourd'hui, c'est Aurélie qui prend ce chemin avec toi, sous ta conduite, sous ton regard, sous ta main bienfaisante, et nous te la confions. Merci, Seigneur, et béni sois-tu, toi, notre Dieu. Amen.
Oui, Seigneur, on aimerait te remettre Aurélie pour ce voyage qu'elle fait, Seigneur. Vraiment que tu puisses être avec elle tout au long de cette période à Madagascar et qu'elle puisse se retourner vers toi à tous les moments où elle a peur, tous les moments où elle a des doutes, Seigneur. Vraiment qu'elle puisse s'ancrer en toi, Seigneur. Amen.
Alors va, Aurélie, on t'accompagne. Que Dieu te bénisse. Et puis surtout, il va te réjouir à son service. Nous le croyons. Alors ne nous oublie pas non plus. Hein. Et nous, on ne t'oubliera pas. Que Dieu t'accompagne.
Comme c'était dit, nous allons avoir la possibilité de voir ces 8 minutes. Mais d'abord, nous allons regarder une présentation là où sera Aurélie. D'abord, nous allons voir les annonces. Il y aura la bénédiction. Si vous êtes dans l'obligation de nous quitter, vous vous sentez libre de nous quitter. Mais nous allons passer directement après à la projection de ce cette courte présentation là où sera Aurélie. Donc d'abord les annonces. Voilà, donc Aurélie ne partira pas seule, il y a Erisu et Menchk qui l'accompagnent pour le départ. Et dans le lieu où ils vont servir, il y a aussi ce projet tout simple, pour équiper les enfants avec des crayons. Donc, dans ces quelques prochains dimanches jusqu'au départ, on a l'opportunité, il y a un carton à disposition, apportons nos crayons, ce serait déjà une première participation. Benjamin, notre stagiaire, part à l'Institut Emmaüs pour continuer sa formation dans le cadre du stage en cours. Voilà. Alors, bonne route, Benjamin. Alors, voilà. C'est le repas canadien directement après le culte. Il y a assez pour tout le monde. Restez. Restons. Voilà. Mardi, on a le privilège de poursuivre nos réflexions sur la mission et c'est Anne-Claude Jonas qui sera avec nous, la représentante de la mission évangélique contre la lèpre. Donc ce mardi qui vient, 14h30, ici pour le fil d'argent. La chorale est relancée pour le dimanche des rameaux, où nous allons chanter au CEPOM dans le cadre de la célébration des rameaux. Donc, c'est pas compliqué. Si vous avez envie de chanter avec nous, soit venez ce jeudi 18h30, peut-être vous pouvez voir déjà Catherine avant pour savoir de quel chant il s'agit. Rencontre générale de notre fédération, il y a nos représentants qui seront là, libre à chacun de participer pour mieux découvrir la fraie également, donc samedi prochain. Et puis, service PAC, ça s'approche. C'est toujours possibilité de s'engager. Et donc, c'est Claude Parnigoni qui peut donner toutes les informations utiles. Voilà, ça c'est côté pioche. Voilà. Voilà, et le chemin de la passion, il y a. Donc, ça, c'est à partir de vendredi prochain. Déjà, nous sommes sollicités. Denise, tu vas nous donner plus de renseignements. Merci.
Oui, donc cette exposition qui raconte, qui nous fait vivre, traverser les derniers jours de la vie de Jésus, ça commence la semaine prochaine. On monte vendredi et samedi, c'est le grand jour de l'inauguration. Un jour où nous accueillerons la paroisse, la population mérinoise. Et nous aimerions que la qualité de notre accueil dise quelque chose de l'amour de Dieu à nos concitoyens. Je tiens le micro parce que je remercie les personnes qui sont déjà inscrites, mais nous avons encore besoin de beaucoup de monde. Vous verrez, il y a beaucoup de blanc sur le panneau d'affichage. Vous pouvez vous inscrire pour des tranches de 2 heures ou 2h30. C'est 2 heures dans une semaine. Nous vous remercions. Mercredi, qui est aussi un jour spécial où il y aura les moutons de Michel, puisque c'est un jour de congé pour les enfants. Nous aurons aussi des activités pour les enfants, donc je vous recommande aussi spécialement ces 2 jours-là. Merci d'avance et de vos prières aussi. Ça peut être un événement purement culturel, mais si 3, 4, 10 pouvaient avoir un tilt pour dire « Ah oui, c'est vrai » et croire, ce serait chouette. Merci.
Donc, par modestie, vous ne vous êtes pas encore inscrit en laissant les meilleures places aux autres. Maintenant, c'est le moment de terminer à remplir. Donc, nous avons compris. L'esquisse du message est disponible. Il y a des photocopies concernant l'appel, si vous désirez avoir un rappel du contenu de la prédication. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Et ensuite, si vous devez nous quitter, comme j'ai dit, sentez-vous libre, mais on veut découvrir là où sera Aurélie et 8 minutes de DVD. Mais d'abord, nous invoquons la bénédiction du Seigneur. Seigneur, nous te louons de ce que tu es venu jusqu'à nous. Tu as veillé de ce que nous pouvons connaître ton amour. Nous désirons à notre tour être tes porte-paroles. Envoie ton esprit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Convainc-nous tout à nouveau de ton amour. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Alors, bon dimanche, repas canadien, mais d'abord 8 minutes de Madagascar.
L'AEF, l'Association de l'aide aux enfants de la francophonie, est investie à Madagascar, dans le centre Faaso Havana, à Ambujadjim, en banlieue de Antananarivo. Ce dispensaire est ouvert depuis le 21 juin 2009. Il couvre une population d'environ 3600 habitants, répartis dans 9 quartiers. Depuis son ouverture, ce sont plus de 1500 familles qui s'y sont déjà présentées. Médicale malgache est composée d'un médecin, d'une sage-femme infirmière et d'une secrétaire médicale aide-soignante. Les consultations et les soins médicaux sont gratuits depuis juillet 2012 afin que le plus de gens possible y aient accès. Avec un budget de 100 euros par mois, les médicaments sont achetés dans 2 laboratoires locaux et sont autant que possible des médicaments génériques. Ils sont revendus à prix coûtant, même si cela est encore trop cher pour certains patients. L'objectif de l'AEF serait d'avoir des fonds suffisants pour réduire leurs coûts et que ces médicaments soient de plus en plus accessibles. Le dispensaire a organisé une session de visite médicale pour près de 350 écoliers. Alors que les enfants passent leur visite par petits groupes, une équipe s'occupe de l'animation et de la sensibilisation à l'hygiène des mains. La plupart des enfants n'ont pas de carnet de santé. Il est donc difficile de savoir si les vaccins sont à jour. Pour chaque enfant sont vérifiés le poids, la taille, le périmètre brachial, la vue, l'audition, la dentition et l'état de santé global. Un nombre important de caries a été relevé, faute d'une sensibilisation préalable. Elle commence seulement aujourd'hui à être effectuée dans les écoles. Chaque année, à Madagascar, 28 000 enfants de moins de 5 ans décèdent des suites de malnutrition. Le CRENAM prend en charge médicalement les enfants de 6 mois à 5 ans atteints de malnutrition modérée. À la fin de leur séjour, ils sont encore suivis pendant 3 mois. C'est un lieu de sensibilisation à l'hygiène, mais aussi un lieu d'écoute et d'animation pour les enfants. Il prend également en charge les femmes enceintes ou allaitantes qui sont aussi malnutries. Ici, le dépistage est effectué dans le quartier très pauvre de Soamananeti. Sur 66 enfants, 14 ont été dépistés malnutris, soit 21% d'entre eux. On utilise un brassard pour mesurer le périmètre brachial. L'enfant est pris en charge lorsque celui-ci est inférieur à 135 mm. Une malnutrition est confirmée, l'enfant est admis au CRENAM pour 3 mois. Durant cette période, il suivra tous les 15 jours des visites médicales et les médicaments lui seront fournis gratuitement. Lui seront aussi préparés 2 repas par semaine, riches en vitamine A, et 1 coupe par jour. La coupe est un mélange de farine de maïs, de soja, de riz enrichi de vitamines et de minéraux. Elle est payante depuis janvier 2012. Un kilo de coube coûte 1 euro et représente 14 repas. Aux enfants admis au CRENAM, des vêtements chauds pour la période fraîche, comme des bonnets, anoraks, des bottes et imperméables pour les périodes de pluie, et des t-shirts ou des shorts pour la période chaude. L'AEF effectue également tout un travail auprès des populations reculées en brousse, qui n'ont aucun accès aux soins médicaux. Le seul moyen d'accéder à ces villages, c'est à pied ou en hélicoptère. En cas d'urgence, ils rejoindront la première ville, Ankavandra, à une journée de marche. Il est donc important de visiter ces villages pour leur apporter un suivi médical et un traitement aux pathologies et infections diverses diagnostiquées. Plus de 30 cas de bilharziose ainsi que 2 cas de lèpre et de tuberculose ont été détectés lors de la dernière tournée. Les conditions sanitaires sont primitives. Il faudrait creuser des puits pour un accès à une eau saine et non souillée par des lessives et excréments causant ces cas de bilharziose. À terme, grâce à de futures pistes d'atterrissage construites à côté de ces villages, un suivi encore plus fréquent pourra être apporté. Quartier Libre est une œuvre sociale qui a pour but de faire de l'animation dans des quartiers en difficulté. Elle s'étend depuis quelques années hors de l'Europe. Pour la première fois, ici à Madagascar, ce sont plus de 500 enfants qui sont encadrés par 25 animateurs. Il s'agit d'une animation de 2 heures environ, où les enfants peuvent participer à toutes sortes de jeux et de sports. On leur propose également des chants et des histoires. Et puis on leur offre à chacun un petit goûter. De projets sont encore à réaliser. À court terme, les enfants ont besoin d'être nourris, soignés. Le matériel préscolaire manque aussi cruellement. Et à long terme, il faudrait forer des puits, construire une bibliothèque, une mini-cantine. Mais ce ne pourra pas être sans vous. Avec peu de vous, ils reçoivent beaucoup.
Voilà, si vous avez des questions, donc Rémi et Daisy Chance se sont avec nous encore à la sortie du culte, lors du repas. Et puis pendant le repas canadien, il y aura aussi un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Première observation, les enfants ont besoin des cuillères un peu plus petites, hein? Vous avez vu les grandes cuillères pour les nourrir? Tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Alors, bon dimanche à chacun.
Non, c'est en cuir.
En cuir.
Du pain, ouais, ouais, tu peux, serve-toi, ouais, pas de problème.
On ouvrir avec.
Oui, on va faire un truc qui marche mieux avec le micro.